Ce balado est une présentation de ADP Canada.
On s'est comme réveillés. Avant, la plupart des gens, on était des... Et je m'inclus là, dans mon ancienne carrière, on était des robots. Et maintenant, tout le monde se pose des questions. Le niveau d'engagement, de motivation, c'est au moins aussi important que la paye. Il faut se sentir impliqué. Il faut sentir qu'on fait partie d'une équipe.
Pour ce nouvel épisode du balado Idées de grandeur, on reçoit Catherine Lemaître, qui est une coach professionnelle et formatrice qui met la bienveillance au cœur de sa mission. Ensemble, on va parler de ce que ça veut dire d'être un leader bienveillant. Moi, c'est Ariane Forget. Je suis gestionnaire de district chez ADP Canada et aussi l'animatrice du balado Idées de grandeur que vous écoutez en ce moment. ADP Canada, c'est une firme de gestion du capital humain, l'une des plus grandes du monde, et c'est l'entreprise pour laquelle je travaille avec fierté depuis bientôt 3 ans. Sans plus attendre, allons rejoindre Catherine.
Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie avec ce sujet-là? C'est quoi ton travail, Catherine?
Mon travail, ben oui, en fait, je suis spécialisée, tu parles de bienveillance et gestionnaire, mais moi, je parle souvent de bienveillance et performance. Donc, je suis spécialisée dans la transformation bienveillante de la performance. Moi, je me considère performante. J'étais une hyper performante avant. Donc, de concilier, en fait, il y a comme une notion d'équilibre là-dedans. J'aime bien rejoindre 2 extrêmes. Donc, la performance, l'équilibre, comment on fait pour être durable, être bien en tant qu'entrepreneur, en tant que gestionnaire. Puis, c'est la clé, c'est la bienveillance. C'est ça, comme le lien entre les extrêmes, justement.
Oui, exactement, c'est ça. C'est comme 2 extrêmes. Comment on peut les arrimer ensemble pour arriver à un équilibre? Veux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a amené, toi, à mettre la bienveillance au cœur de ta mission?
Oui, ben, dans mon ancienne carrière, j'étais en ressources humaines, en amélioration de processus. Puis j'ai été témoin de burn-out, de fatigue, des gens qui sont là en présence au travail, mais pas efficace, pas vraiment là, mentalement, en fait. Puis j'ai moi-même vécu plusieurs épisodes où j'ai dû choisir entre ma santé, mon équilibre, et l'efficacité et ma carrière. Puis je ne pouvais pas me résoudre à choisir entre l'un et l'autre. Donc, j'ai cherché les moyens d'allier les deux. Et ça fait très longtemps, là, mais plusieurs années. Mais c'est ça qui a démarré en quelque sorte l'idée que je pouvais faire autre chose, puis qu'à un moment donné, des années plus tard, l'occasion s'est présentée, puis je suis retournée aux études pour devenir coach. Donc c'est ça. J'ai eu les épisodes, oui, je peux en parler. Il y a un épisode avec mon fils qui a vécu beaucoup de je vais dire, un trouble anxieux. Donc, il a été diagnostiqué avec ça, donc de stress. Il a d'autres défis personnels. Il m'autorise à en parler, d'ailleurs. C'est pour ça que je peux le mentionner. Mais là, il est rendu adulte. Mais quand ton enfant va mal ou ton adolescent va mal, quand il menace de se suicider, c'est comme un réveil, un choc qui te fait dire « OK, il y a autre chose que juste la performance. Il doit y avoir moyen de faire sortir le meilleur des gens pour qu'ils soient performants après. » Donc, c'est pas le point de départ, c'est pas la performance, c'est la bienveillance qui permet le reste.
Oui, c'est, pour retrouver nos bases, hein, se solidifier dans nos bases. Dans notre bien-être pour être capable de continuer dans notre
performance. Donc, c'est vraiment grâce à lui, en fait, je le remercie aujourd'hui, il va mieux. C'est grâce à lui que j'ai pu développer des outils vraiment pour combiner ça, la bienveillance et la performance. Et c'est ce que je transmets maintenant.
Merci de ton partage très personnel, très touchant. J'en avais déjà entendu parler, puis je suis très contente que tu puisses le partager aujourd'hui avec nos auditeurs, auditrices. La santé mentale, les défis qu'on vit, on les vit tous. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus depuis les deux dernières années. Heureusement, la pandémie a permis aux gens de se mettre un peu plus à nu à ce niveau-là, d'accepter la vulnérabilité, d'accepter que parce que la planète entière vivait des difficultés, c'était moins gênant d'en parler. Aujourd'hui, on est en train de reprendre tranquillement le dessus sur notre vie normale, entre guillemets, mais les défis au niveau de notre bienveillance restent des défis pour la vie. On a tendance des fois à se donner des périodes où on va se dire « on va prendre soin de nous parce que là, on ressent qu'on en a besoin », mais je crois que le but, c'est de le faire de façon constante et d'arriver à ce que ça fasse partie de notre vie à toutes les semaines, à tous les jours, puis de ne pas s'oublier. C'est ça que j'ai envie qu'on jase aujourd'hui, puis c'est pour ça que je veux te poser les questions pour que tu nous donnes du concret, des idées, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui que la bienveillance, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu parler. Mm-hmm. Peut-être qu'ils ont déjà entendu ce mot-là, mais ils ne savent pas du tout c'est quoi vraiment la définition. Puis il y en a peut-être qui ont déjà entendu ça, ils savent c'est quoi la définition, mais ils ne savent pas en tout comment on peut arrimer bienveillance et performance. Donc, pourrais-tu commencer par nous donner la définition de la bienveillance?
Ben oui, je veux bien. En fait, il y en a plusieurs. Il y a plein de synonymes. Hein. Quand on pense bienveillance, on peut penser à acceptation, humanité, empathie. Il y a plein de mots. Dans Larousse, et je l'ai noté, là, c'est la disposition d'esprit qui incline à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Moi, je dis souvent que c'est, dans une entreprise, c'est œuvrer au bien commun. Reconnaître notre valeur, reconnaître celle des autres, c'est ce qui donne vraiment du sens à pourquoi on travaille ensemble, en fait. Donc, l'idée de bienveillance, c'est loin d'être « je suis mou et je laisse faire ». On n'est vraiment pas là. La performance va avec la bienveillance. C'est une façon d'être, en fait. C'est une façon d'être. Puis j'ai bien aimé que tu dises « c'est au quotidien ». En fait, oui, c'est une conscience quotidienne, tout simplement. C'est pas très compliqué, mais il y a des étapes pour mettre
ça en place. Est-ce qu'on pourrait arrimer bienveillance avec intelligence émotionnelle et introspection?
Oh, tellement! J'adore ce que tu dis! Oui. En fait, le développement, typiquement le développement de compétences, donc l'intelligence émotionnelle, l'adaptabilité du leader, sa conscience de lui, c'est la base vraiment pour pouvoir être bienveillant. En fait, il faut l'être d'abord envers soi pour pouvoir l'être avec son équipe.
J'aime ça. Donc, se pratiquer sur nous-mêmes avant de se pratiquer sur les autres, c'est quand même un bon conseil.
Oui, souvent par le leader. En fait, je commence souvent dans mes interventions maintenant en entreprise, je commence souvent, les gestionnaires vont me dire « Ah, mes employés ont besoin de gérer leur stress, etc. » Mais souvent, j'aime bien commencer par le leader parce que la bienveillance envers lui et pour voir en fait où il en est dans sa bienveillance, ça permet beaucoup de choses, sans même qu'ils disent un mot. Là. C'est très naturellement que la bienveillance, ça se ressent. Hein. C'est pas « je le garde pour moi
». Alors, ce que tu dis, Catherine, que le leader doit regarder pour sa propre bienveillance, ça fait tellement de sens. Comment Veut-il être bienveillant pour son équipe s'il ne l'est pas envers lui-même? Donc, parle-nous donc pourquoi. Pourquoi aujourd'hui la bienveillance est un élément nécessaire pour arriver à la performance d'équipe en affaires?
Ben, en fait, c'est pas très nouveau. Ça fait longtemps qu'on parle de bienveillance. C'est juste que là, avec les deux dernières années, ben, ça a pris de l'ampleur. Avant, la plupart des gens, on était des, et je m'inclus là, dans mon ancienne carrière, on était des robots. Donc, on se rendait au travail, on faisait ce qu'il y avait à faire, ce qu'on était obligé ou ce qu'on pensait qu'on devait faire. Puis, on rentrait, puis on se posait peu ou pas de questions. Et maintenant, tout le monde se pose des questions. Et c'est merveilleux. Les gens ne se basent plus juste sur les valeurs de l'argent, du rendement. Ils veulent aussi être bien. Et surtout, il y a les générations plus jeunes que moi en tout cas. Le niveau d'engagement, de motivation, c'est au moins aussi important que la paye. Il faut se sentir impliqué, il faut sentir qu'on fait partie d'une équipe. De la part des gestionnaires aussi ou des dirigeants, on considère vraiment les employés plus comme des ressources qu'on utilise, mais comme des collaborateurs. Ça, c'est vraiment une culture complètement différente qui est en train de s'installer. Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de chemin à faire, mais j'ai à cœur de contribuer à cette transformation, en fait, de voir nos équipes de travail comme on est tous en collaboration pour améliorer quelque chose.
Puis on parle tellement des valeurs puis des missions hein, aussi, comme ça va avec la bienveillance aujourd'hui de travailler dans des organisations qui nous ressemblent en termes de valeurs et de missions. Avant, les gens se posaient moins de questions sur les valeurs, les missions des entreprises. Ils voulaient une paye, ils voulaient faire leur travail, puis après ça, être heureux dans leur vie personnelle. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus un ensemble. Est-ce que dans mon 9 à 5, je me sens heureux, heureuse, et je réponds à une mission qui me ressemble? Et ça, c'est de la bienveillance. Oui. Envers soi-même, de se respecter là-dedans.
Exactement, oui. J'ai une phrase que j'ai entendue à un sommet de la bienveillance de 2018 qui dit « La bienveillance crée la sécurité nécessaire à la coopération et à la liberté d'innover. » J'adore cette phrase parce que pour moi, elle me dit que s'il n'y a pas de sécurité, entre guillemets, si on ne se sent pas bien dans son travail, il n'y a pas de performance possible. On n'est plus à l'ère du fouet, en fait.
Je nous interromps quelques secondes pour vous livrer un petit message important. Ce balado-là, on le fait pour vous et c'est pour ça que je vous invite à m'écrire pour me partager vos questions, vos suggestions et vos idées grandeur. Ariane avec juste un N.Forget à commercial adp.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je lis tout. Quel genre de truc ou d'atelier tu peux donner pour aider à, j'imagine, de un, comprendre ce qu'est la bienveillance et de deux, comment la mettre en place dans sa pratique quotidienne de leadership?
Oui, ben en fait, il y a beaucoup. Il faut voir ce cheminement comme une évolution. Hein? Ce n'est pas un but qu'on atteint. On évolue, on se transforme toute notre vie. Et on découvre différentes techniques et différentes approches toute notre vie. Donc, que ce soit dans notre façon de communiquer, etc. C'est un processus. Je viens de voir que mon téléphone, il bip. J'espère qu'il ne sonnera pas. Je ne l'ai pas fermé.
On va le couper si jamais,
oui.
Si jamais on entend ça. Dis-moi quand ça arrête de sonner parce que je vais attendre.
Ça a arrêté.
OK, parfait.
Bon, pas juste pipé. Fait que oui, tu disais les... Ben, répète ta question. J'ai perdu le fil.
On y va. Un, deux, trois. Peux-tu nous donner des exemples de ce que tu vas enseigner dans tes formations avec les leaders pour les aider, en premier, à comprendre ce qu'est la bienveillance, puis deux, à comment l'appliquer dans leur vie, en premier, mais aussi avec leur équipe?
Oui, en fait, la bienveillance, c'est un processus. On ne l'acquiert pas une fois pour toutes. C'est un, tu as dit tout à l'heure, c'est un travail quotidien. C'est, ça se fait au quotidien, mais c'est une évolution qui se fait au quotidien pendant toute notre vie. Il y a beaucoup d'éléments. Je pourrais en mentionner quelques-uns. Donc, d'abord, l'attitude. L'attitude et le mindset. Moi, je parle souvent de d'attitude, le mindset du scout. Donc, pour moi, je ne sais pas si tu as déjà été scout, mais...
Sûrement dans une ancienne vie.
Le scout, il va typiquement apprendre, explorer, découvrir, donc apprendre à faire un feu, apprendre à développer des habiletés, apprendre à retrouver son chemin en forêt, etc. Le mindset du scout, c'est vraiment de se mettre en mode découverte, expérimentation, avec l'idée que il y a pas d'erreur possible, il y a pas besoin de juger l'autre, juste essayer de comprendre. Donc, quand on est en mode scout, où on découvre, on essaye de comprendre, on essaye de se comprendre, de comprendre l'autre, ben, il n'y a pas d'erreur possible. Déjà, ça, c'est une... Pour moi, c'est une base. Je dis souvent être en mode découverte. Peut-être parce que j'aime ça accompagner les gens dans la nature dehors, là, mais être en mode découverte, c'est vraiment puissant pour changer notre attitude. Puis souvent, ce n'est pas un processus mental, c'est être soi-même, je dirais être cohérent aussi avec soi. Donc, la cohérence, c'est... Tiens, je vais parler de la cohérence, oui. La cohérence, c'est le lien entre ce qui se passe, ce qu'on dit et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous.
L'intégrité, souvent, en fait, quand on dit les babines, les bottines suivent les babines.
Oui, mais c'est au-delà de ça, parce que la cohérence, des fois, on ne s'en aperçoit pas nous-mêmes. Donc, la cohérence, c'est, par exemple, je suis stressée et de faire semblant qu'il ne se passe rien, puis de fouetter les autres à la performance, par exemple.
Oh, donc, dire,
là, je suis un peu démunie. Je ne sais pas comment dealer avec ça. C'est une nouvelle situation dans l'entreprise. Et de demander, en fait, ça attire la collaboration quand on s'ouvre comme ça. Donc, tout simplement, nommer ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, c'est même pas encore rendu à les babines suivent les bottines. Hein. C'est vraiment...
La conscience, prendre conscience de ce qu'on ressent, étape numéro un. Étape numéro deux, d'être capable de le nommer.
Ouais.
J'imagine qu'ensuite, c'est d'être capable de demander la collaboration en lien avec ça.
Exactement, parce que quand on est incohérent, je vais dire, entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur, les gens ne sont pas dupes. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression que quelqu'un il ne me dit pas le cœur de son problème. J'ai l'impression qu'il y a un problème, mais il ne dit pas.
Si tu me poses une vraie question, Catherine, je vais te dire que ça m'arrive à chaque jour.
Oui.
puis moi, dans ma bienveillance, à ce moment-là, je dis à la personne, attends un petit peu, on va s'arrêter, puis on peut-tu reprendre ça? Puis j'essaie de donner l'espace à la personne pour prendre le temps de nommer si moi, je ressens quelque chose que l'autre personne ressent puis essaie d'éviter. Je te le dis, des fois, les gens sont comme, oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Oui, je suis vraiment en train de te permettre ça. Puis c'est tellement magnifique. Qu'est-ce qui se passe après? Allez, je te laisse aller parce que sinon, je vais te coller là-dessus.
Ben non, mais tu viens de décrire exactement le c'est ce que j'appelle le miracle qui se passe. C'est souvent quand on s'occupe d'être cohérent, même avec nos enfants, là, quand on dit non, non, tout va bien, puis qu'on va mal, il s'agit pas de déballer tout ce qui va mal à nos enfants, là, mais tout simplement de dire ah, ben, je suis soucieux en ce moment. Hein, ou je... En fait, ça donne la légitimité à l'enfant de lui aussi se sentir soucieux ou désemparé. Ou... C'est tout simple. Donc, dans nos équipes, ça ouvre la porte à ce que les autres s'expriment aussi. Puis tu viens exactement de décrire ce jeu-là, permettre à l'autre d'être lui-même, en fait.
Un leader qui se démontre vulnérable devant son équipe en toute authenticité, c'est tellement magnifique et ça fait des vrais miracles. Je l'ai vécu avec des gestionnaires que j'ai eus qui étaient absolument merveilleux, humains et à l'aise avec leur propre bienveillance. Et ça a été vraiment des beaux moments là, de carrière avec ces personnes-là. C'est ça qu'on décrit, selon moi, comme des leaders de cœur. Et c'est là que je veux aller là tantôt. Je vais te laisser continuer avec tes éléments. Mais après, là, je veux vraiment que tu nous dises concrètement comment là, on peut être bienveillant et performant. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ouais, mais hey, j'ai tellement des préjugés sur le monde là, qui sont des leaders d'entreprise puis que, voyons donc, comment ça que je pourrais ouvrir mon cœur puis que mon monde va continuer de me suivre? »
Oui, il y a ça, puis il y a aussi la petite chose qui s'appelle le jugement, où on est conditionné dans notre ère de performance, on est conditionné à juger. C'est pas forcément un mot négatif, mais à dire, ben voyons, si moi je suis capable, l'autre est capable. Ça, c'est mon ancienne moi qui, qui parle de performance. Donc, on est prompt à juger les autres d'après ce que nous, on est en mesure de produire. Donc, si nous-mêmes, on se permet pas de faiblesse, ben, on aura du mal à les voir chez les autres ou à les accueillir chez les autres. Et pourtant, c'est ça qui va créer plus de performance.
Si vous voulez ne rien manquer de nos prochains balados et des nouvelles tendances dans le monde entrepreneurial, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Ariane Forget, juste un N à Ariane. Je partage beaucoup de contenu en lien avec le leadership et les ressources humaines et le tout est toujours saupoudré de mon légendaire sens de l'humour. Est-ce que tu as encore d'autres éléments concrets à nous nommer concernant qu'est-ce qu'on pourrait vraiment mettre en place pour aider la bienveillance?
Je dirais apprendre à donner et recevoir du feedback. C'est en lien aussi avec la cohérence, mais donc valoriser les échanges vrais. Puis pour débuter, je dirais... Ça commence par le gestionnaire qui va demander l'avis de ses employés. Parce que c'est difficile d'arriver en tant que leader puis dire « Ah tiens, je vais te donner du feedback. » C'est perçu comme une agression, une mini-attaque. Donc, demander l'avis de ses employés, ça permet aux gens de se sentir autorisés à s'exprimer. Ah, il veut vraiment mon feedback. Ça valorise la personne. Puis après, ça nous permet de, en tant que leader, gestionnaire, de donner du feedback. Pas après directement, là, quelques semaines après. Donc, commencer par implanter une culture où le gestionnaire demande l'avis de ses employés. Des fois, quand on va donner notre avis, je dirais préciser notre intention à l'intérieur de nous avant même d'ouvrir la bouche. C'est quoi notre intention en exprimant, en donnant notre feedback? Est-ce que c'est rabaisser l'autre, lui dire quoi faire. Il n'y a personne qui aime se faire dire quoi faire. Donc, c'est ça. Ou est-ce que c'est vraiment constructif? Donc, vraiment prendre des notes, aller au début, ça peut être un peu plus long, mais à la longue, quand on le pratique, ça va de plus en plus vite de vraiment dire c'est quoi mon intention. Et des fois, j'ai toujours l'exemple d'une de mes gestionnaires. À un moment donné, dans une formation, je formais les autres, d'autres gestionnaires dans différents processus. Puis elle avait, à un moment donné, je savais que j'avais complètement oublié quelque chose et elle ne me l'a jamais mentionné. Elle le savait. Je l'avais dit, elle le savait que moi, j'avais dit « Ah, j'ai fait une erreur », ce que je considérais comme une erreur. Ce n'était pas si grave que ça, là, mais elle ne l'a jamais mentionné. Des fois, on n'a pas besoin de parler d'une erreur de quelqu'un pour que la personne, elle apprenne tout seul. Donc, si le but, c'est toujours apprendre, découvrir, évoluer pour être plus performant, ben, laisser des fois la porte ouverte et ne rien dire, c'est parfois la solution. Donc, développer, j'aide vraiment les gens à développer cette subtilité c'est un apprentissage, hein? Donc, je les aide à se positionner, à se pratiquer. Ça fait pas mal. C'est souvent, les gens adorent les changements qu'ils voient quand ils l'expérimentent. Déjà sur eux, puis ils se lancent, puis ils l'essayent, puis ça fait comme « Ah, oui, c'est ça. »
L'arme du silence.
Ah!
Le silence, c'est tellement puissant et c'est à utiliser dans plein de situations différentes. Ce que tu viens de dire, tu sais, de laisser la place. Si la personne est capable de se rendre compte par elle-même, la leçon va être aussi grande.
Qu'est-ce que
tu lui dis? Puis est-ce que dans tes ateliers, ben je dis ateliers, mais dans le fond, dans tes formations, est-ce que tu fais des ateliers comme ça vraiment sur le spot? Tu sais, de dire, bon, là, on va pratiquer, de se donner du feedback, d'écouter. Je donne des idées de même, je sais pas, je te pose la question. C'est-tu des choses comme ça pour permettre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui de s'imaginer ce qu'ils pourraient vivre dans une de tes formations?
Oui, ben je donne des formations à des gestionnaires, à des équipes de gestion. Par contre, pour vraiment former la personne, j'aime mieux la prendre en privé, tout simplement parce que elle va être moins en alerte, en mode stress, ou en observation, en hyper-observation de ce qu'elle doit faire ou pas faire. Donc, le faire seule, donner des expérimentations à vivre seul, c'est beaucoup plus puissant. Puis après, oui, après, moi, j'ai à cœur de rassembler l'équipe. J'adore ça, rassembler l'équipe. Pour moi, il n'y a pas de... Là encore, des extrêmes. Il y a des gens qui m'ont dit, tu parles aux gestionnaires puis tu parles aux employés. Je dis oui, pour moi, c'est rassembleur de vouloir transformer la culture, de vouloir être bienveillant, de baisser le niveau de stress aussi dans l'équipe. C'est rassembleur, de prendre soin l'un de l'autre, de la santé mentale de tout le monde. C'est ça.
C'est une question que je voulais te poser. Oui, mais c'est super. Je voulais justement te poser la question. On parle beaucoup des leaders, des gestionnaires depuis tantôt, mais évidemment, quand on parle de transparence, de vulnérabilité, authenticité, écoute, ben justement, je voulais savoir comment tu mettais en place la transformation en incluant les employés dans cette transformation-là.
J'accompagne le dirigeant, le gestionnaire, et au fil du temps, je l'invite à mentionner sa transformation, à mentionner qu'il travaille sur lui ou elle. Là. Je dis lui, mais j'ai autant de femmes que d'hommes. Donc, de parler de ce désir d'abord de s'observer, de s'améliorer, ben, ça ouvre la porte et ça facilite après l'équipe, le travail en équipe. Donc, après, oui, moi, j'ai des ateliers sur C'est quoi nos croyances en tant qu'équipe qui nous limitent? Si on croit qu'il faut travailler 80 heures par semaine absolument pour réussir, ben on va tous s'épuiser. Tandis que si on croit que être bienveillant, ça va améliorer notre performance, ça change complètement. Donc, je les guide là-dedans sur c'est quoi leur conviction en tant qu'équipe et qu'est-ce qu'ils veulent transformer pour vraiment changer l'atmosphère.
C'est magnifique, Catherine. Tu parles, là, puis moi, c'est souvent ça dans ma tête, c'est comme des films qui se passent. Puis là, j'ai l'image du gestionnaire qui fait son meeting du lundi matin, puis qui demande à chacun « Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine pour être bienveillant envers vous-même et qu'est-ce que vous allez faire cette semaine de lundi à vendredi? » Je m'imagine juste à quel point ça doit être transformationnel que tout le monde regarde, écoute les autres et se dise « Wow, on se donne le droit d'être bienveillant envers nous-mêmes, de le partager en équipe et de performer encore plus à la fin de la semaine puis de célébrer. Ça doit-tu être beau? »
Oui, c'est ça. Ça change toute la joie dans l'équipe, la bienveillance. Ça fait vraiment... je dis souvent, c'est de la gestion du stress. Parce que ça... De sentir que quelqu'un est bienveillant ou d'être soi-même bienveillant dans une équipe, ça baisse le niveau de stress. Souvent, on a de l'anxiété de performance. On a, en tout cas, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, ça baisse le jugement. Ça permet de se sentir accueilli. Ça permet de se sentir bien. Ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça aussi, c'est pas un... Souvent, je n'interviens pas en un atelier, c'est un processus. C'est un processus.
Oui.
Mais c'est vraiment le fun à vivre. Après, il y a plein de petits rituels d'équipe qui se créent. En fait, c'est eux qui les créent, mais je les aide à créer leur propre rituel d'équipe. Tu parles de meeting du lundi matin, mais ça peut être... souvent, ça devient des meetings le fun.
Ben c'est ça. Ah, j'aime tellement le sujet, là, Catherine. Je continuerai à en parler avec toi pendant une semaine au complet. Mais là, ça, ce serait plus de la bienveillance. Là, je ne pourrais plus du tout être dans ma performance si je fais ça 40 heures cette semaine. Je pose toujours une question à mes invités qui est quand même difficile à répondre quand on parle d'humain. Mm-hmm. C'est comment calculer le retour sur investissement quand on fait un processus comme ce que tu proposes. Il n'y a pas de bonne réponse. On le sait que les statistiques, c'est difficile quand on parle d'humain, mais c'est une question que j'aime poser. J'aimerais que tu nous dises, toi, c'est quoi le retour sur investissement que tes clients peuvent voir?
C'est une très bonne question parce que souvent, quand on parle de résultats, on veut des chiffres tangibles. Et le développement humain, c'est intangible, hein? C'est vraiment des impressions. Donc, j'y vais avec les impressions. Souvent, je fais remplir un genre de questionnaire. Des fois, quand c'est plus personnel, ça peut être une roue de la vie où les gens vont noter leur appréciation de chaque sphère de vie. Et je reprends la mesure à la fin. Et les gens sont, et ils n'ont pas le droit de regarder leur première mesure, mais 6 mois après, quand ils regardent la nouvelle, c'est comme fascinant de voir, parce que c'est systémique, hein, donc c'est pas parce qu'on améliore notre vie au travail qu'il n'y a pas d'impact sur le reste. Souvent, ils vont remarquer qu'il y a plein d'impact sur tout le reste de leur vie, leurs relations personnelles, leurs loisirs, le temps qui s'accorde, etc. Donc, tout ça, là, je fais le avant-après et c'est génial de voir les gens sont surpris parce qu'on ne le remarque pas toujours quand on évolue, quand on développe des compétences, on est prompt à se juger que, bof, je ne suis pas encore, au niveau que je veux, mais quand on compare à quelques mois d'intervalle, là, Wow. Ça ne se compte pas. Donc, les bienfaits sur l'humain. Donc, c'est ma mesure.
Ah, j'adore. J'avais aucune idée de ce que tu allais me répondre. Tu n'avais aucune idée que j'allais te poser cette question.
En effet. Puis j'ai d'autres mesures aussi, là, mais ça, c'est celle que j'aime.
Mais j'adore parce que tu peux le prendre en photo, tu peux le mettre sur ton vision board. Tu peux prendre le même pouls pour l'équipe au complet, le avant, pendant, après. Puis il n'y a jamais de après parce que c'est toujours un pendant. On va se le dire, hein? C'est la vie au complet.
C'est ça.
Alors, merci, Catherine. Comment on peut te rejoindre si les gens qui nous écoutent veulent continuer d'échanger avec toi ou en savoir plus sur ce que tu fais?
Je suis beaucoup sur LinkedIn. Je suis très active sur LinkedIn, donc on peut me joindre là. Sinon, j'ai mon site internet, Le Maître Coaching.
Parfait.
Il y a plein de manières de me rejoindre.
C'est vrai que tu es toujours active sur LinkedIn. C'est toujours le qu'on s'écrit.
J'aime bien que tu parles de vision board parce qu'en effet, je fais faire des vision boards d'équipe.
Hey, tu vois, j'avais la vision de que tu faisais ça. Puis on dirait qu'il m'a popé plein d'idées, là, je te jure, pendant la rencontre, en ce moment, il va falloir que j'écrive tout ça puis qu'on s'en reparle parce que là, c'est comme si tu m'avais tellement inspirée, là, que je rebâtirais le monde de bienveillance, là, tout de suite.
Ouais.
J'espère que les auditeurs, auditrices ont eu autant de belles idées. Partagez-les-nous, s'il vous plaît, si ce podcast vous a amené de nouvelles idées, des choses qu'on pourrait partager au monde pour en faire profiter. Allez-y, ça va être posté sur LinkedIn, vous pouvez écrire en dessous, vous pouvez m'envoyer des courriels, on va vous écouter et puis on va partager. Merci Catherine, merci énormément de ta présence. Aujourd'hui, ça a été vraiment le fun.
Merci à toi, à bientôt.
C'est déjà la fin pour cet épisode. Ce fut un honneur pour moi de recevoir Catherine et si vous avez été inspiré par son parcours, ne vous gênez surtout pas de la contacter. Dans le prochain épisode, je recevrai Solène Métaillé, qui est une analyste de l'expérience employée chez Collegs. Et Solène se situe quelque part sur le spectre de l'autisme, puis avec elle, on va parler de neurodiversité. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour le prochain épisode dans quelques semaines.